et bienvenue, c'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quelle réparation après des décennies de violence et de silence? Les évêques présentent ce matin leur réponse concrète au rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'église. On attend notamment des détails sur l'indemnisation des victimes. Un taux d'incidence record en Allemagne, des cas en augmentation en France, la reprise épidémique se confirme. Et à l'hôpital, les soignants craignent le retour du virus alors qu'une autre vague submerge déjà les urgences. La bronchiolite, très précoce cette année, nous serons à Tours. Dans ce journal aussi, elle fait trembler Facebook. La lanceuse d'alerte Frances Haugen est en tournée européenne. Et Michel Houellebecq qui lit ses poèmes au Rex Club à Paris. De quoi patienter avant la sortie de son prochain livre.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui la grande reporter à TF1, Dominique Lagroux sans père. Elle publie « Après l'orage » aux éditions Flammarion.
France Inter.
Ils n'ont pas le droit de décevoir.
Aux révélations de début octobre, les évêques de France doivent apporter une réponse à la hauteur du choc. C'est en tout cas l'attente des associations de victimes de violences sexuelles dans l'Église. Un mois après la publication retentissante du rapport Sauvé, les responsables catholiques réunis à Lourdes depuis 8 jours annoncent ce matin une série de mesures. Ils ont déjà reconnu la responsabilité institutionnelle de l'Église, mais c'est maintenant la question de la réparation, de l'indemnisation qui doit être réglée. À Lourdes, Delphine Evenoux.
Les évêques le savent, pour les victimes, la reconnaissance de responsabilité institutionnelle annoncée vendredi n'est qu'un premier pas. Il y aura d'autres gestes forts, promet François Touvet, évêque de Châlons en Champagne.
C'est le moment, effectivement. Nous avons rendez-vous, je dirais peut-être avec l'histoire, mais nous avons rendez-vous avec notre conscience aussi. Nous avons rendez-vous avec les personnes victimes, nous avons rendez-vous avec le peuple chrétien, nous avons rendez-vous avec la société française tout entière. Donc le rendez-vous ne sera pas manqué.
Les évêques vont aussi préciser les contours d'une commission indépendante calquée sur la CIAS pour suivre les dossiers des victimes. On connaîtra tout à l'heure le nom de sa présidente. L'indemnisation sera individuelle, sans doute sans condition de prescription des faits, et prélevée sur un fonds de dotation opérationnel depuis un mois. Quel financement ? Luc Crépy, évêque de Versailles chargé de la lutte contre la pédophilie, donne des pistes.
Eh bien, avec l'argent dont l'Église dispose, dans les diocèses, dans la solidarité, les évêques, les auteurs, bien sûr, les premiers devront contribuer. Et puis, s'il y a des fidèles qui souhaitent contribuer, ils peuvent le faire aussi.
Luc Crépy promet aussi un échéancier précis sur la mise en œuvre des mesures. Reste qu'une partie des recommandations sur la gouvernance de l'Église ou le droit canonique dépendent directement du Vatican. Tous les membres de la CIAS ont rendez-vous à Rome avec le pape dans un mois.
Et les annonces seront donc dévoilées à 10h30 ce matin après un vote solennel à huis clos des 120 évêques réunis à Lourdes. Le soulagement ce matin pour ceux parmi vous qui n'ont pas vu leur cousin ou leur oncle américain depuis près de 2 ans, à part sur Zoom. C'est la fin de la plupart des restrictions aujourd'hui pour entrer aux États-Unis. En tout cas pour les voyageurs européens, canadiens et mexicains vaccinés contre le Covid. Après 20 mois de limitation très stricte des échanges, le pays rouvre ses frontières, même pour les séjours dits non essentiels. Réouverture malgré la reprise épidémique en Europe. Taux d'incidence record enregistré ces 7 derniers jours en Allemagne. Chez nous, face à la dégradation de la situation sanitaire, les écoliers français doivent remettre le masque ce matin dans 39 départements où ils avaient pu l'enlever le mois dernier. Ça va de l'Ain à l'Ille-et-Vilaine, du Lot au Bas-Rhin, du Gers au Nord. Vous retrouvez la carte complète sur franceinter.fr. Au total, 61 départements sont désormais concernés.
Il est 7h33 et face à cette reprise épidémique, Alexis, on attend demain soir l'allocution d'Emmanuel Macron.
Sur la troisième dose notamment, faut-il en faire un impératif pour le pass sanitaire ? Faut-il l'élargir à d'autres publics? Réponse donc demain 20h. 8500 cas de Covid recensés hier en 24 heures et une centaine de nouvelles hospitalisations. Le retour de malades à l'hôpital alors que les urgences sont déjà débordées par une autre épidémie, la bronchiolite chez les bébés. Toute la France est touchée par une vague bien plus précoce que d'habitude. Alors comment un service d'urgence pédiatrique tente actuellement de gérer l'afflux? C'est le reportage d'Alice Cachaner à l'hôpital Clocheville de Tours.
Comme ce nourrisson qui a du mal à respirer, une trentaine de cas de bronchiolite arrivent chaque jour aux urgences. Une situation inédite en cette saison, souligne la pédiatre Margot Hazard.
Autant d'enfants, on les a, mais plus tard dans l'année, au mois de décembre, c'était jamais arrivé depuis que je travaille ici, moi, qu'en octobre, on est autant d'enfants aussi malades.
Une épidémie précoce liée notamment au confinement successif, explique le chef de service Yves Marot.
Les gamins ont été trop protégés et voilà, il y a un déficit d'immunité dans la population. population générale et c'est pour ça que ça démarre plus fort.
Vous nous trouvez des places ?
Donc on voit que tous les box sont occupés.
Des box au confort sommaire qu'on utilise pour hospitaliser les enfants, faute de place dans les services.
C'est pas très convivial comme endroit. Il y a un brancard, c'est pas très adapté aux bébés pour garder les bébés là. Donc c'est pas des conditions très très dignes.
Une situation accentuée par le manque de personnel. Alors pour faire face, les soignants font des heures supplémentaires, reviennent sur leurs jours de congé. Et les équipes fatiguées sont parfois confrontées à l'incompréhension de certains parents. Comme nous le raconte cette infirmière, la voix encore tremblante.
Il y a des parents qui ont attendu 4 heures, donc ils ont été agressifs verbalement. Ils nous ont crié dessus en nous disant qu'on était incompétents et que s'il y avait un souci, ils porteraient plainte. Mais on ne peut pas faire plus, quoi.
Reste à savoir si le pic de l'épidémie de bronchiolite a été atteint. L'hôpital n'exclut pas de déprogrammer certaines interventions dans les jours à venir.
À l'hôpital Clocheville de Tours, le reportage France Inter d'Alice Cachaner. Gérald Darmanin annonce ce matin sur Twitter qu'il se rend immédiatement à Cannes après l'agression d'un policier du commissariat de la ville. Policier blessé à l'arme blanche. Quant à l'agresseur, il a été neutralisé par ses collègues, selon le ministre de l'Intérieur, toujours sur Twitter. Qui représentera la droite à la présidentielle? Les adhérents Les Républicains trancheront le 4 décembre pour les aider à choisir. Quatre débats seront organisés d'ici là entre les cinq concurrents. Le premier, c'est ce soir à la télévision entre Xavier Bertrand, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Philippe Juvin et Éric Ciotti. Dans la foulée, tous sont attendus demain à Colombey-les-Deux-Églises, 51e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Se revendiquer du gaullisme, c'est devenu un passage quasi obligé dans cette campagne, Élodie Forêt.
Embouteillage à Colombey-les-Deux-Églises. En 2016, Alain Juppé, en difficulté face à François Fillon, s'y était rendu à l'improviste dans l'entre-deux-tours de la primaire.
En ce moment un peu trouble, c'est toujours bien de se ressourcer.
Demain, ce seront les cinq candidats au Congrès qui iront ensemble se ressourcer après le premier débat télévisé. Une photo de famille pour maintenir un sentiment d'union. Les LR qui à Colombey croiseront Jean Castex, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot et Anne Hidalgo. Pas Marine Le Pen qui, selon son entourage, n'a pas voulu prendre son ticket pour Colombey, préférant se rendre à Bayeux où en 1946, le général de Gaulle fit son discours sur les institutions.
Les pouvoirs publics ne valent que s'ils reposent sur l'adhésion générale des citoyens en matière d'institutions. Bâtir sur autre chose, ce serait bâtir sur du sable.
Bayeux, où Marine Le Pen, héritière d'un Front National construit sur l'antigaullisme, veut finaliser sa mue, rompre définitivement avec son père pour mieux s'opposer à Éric Zemmour, en promettant d'inscrire son action dans le cadre constitutionnel, là où le polémiste grince un proche de la candidate, veut s'asseoir dessus.
Élodie Forêt, service politique de France Inter. Au Népal, trois corps découverts ce matin dans la zone où trois alpinistes français ont disparu la semaine dernière après une avalanche. Pour l'instant, ces dépouilles n'ont pas encore été identifiées, précise la police locale. Les pays pauvres affectés par le réchauffement climatique pourraient voir leur PIB par habitant chuter de 40 à 80% d'ici à la fin du siècle à cause des effets du dérèglement du climat. C'est l'alerte lancée ce matin par l'ONG britannique Christian Aid à l'occasion de la COP26 de Glasgow, la conférence climat qui entre dans sa deuxième semaine en Écosse. Facebook est en faillite morale. Sa déclaration il y a un mois devant le Congrès américain a fait trembler le réseau social. La lanceuse d'alerte Frances Haugen est en tournée en Europe. Cet ex-employé du géant californien sera à Paris après-demain et dès aujourd'hui à Bruxelles, où elle répondra aux questions des députés européens. Pour cette femme de 37 ans, Facebook fait passer ses profits avant la sécurité de ses utilisateurs. Mais qui est-elle vraiment, cette lanceuse d'alerte? Portrait signé Loïc Piala.
Frances Haugen n'organise jamais de fête d'anniversaire, elle n'aime pas être au centre de l'attention. Pas idéal quand on s'attaque à un géant valant 1000 milliards de dollars en bourse. Mais pour elle, la désinformation est une affaire personnelle, l'un de ses meilleurs amis s'est radicalisé en ligne. L'ingénieur diplômé d'Harvard, passé par d'autres grands noms de la Silicon Valley tels que Google ou Yelp, est entré à Facebook en 2019 comme chef de produit. Au sein d'une équipe travaillant sur la démocratie et la désinformation, elle espérait rendre la plateforme moins toxique, dit-elle, convaincue que les réseaux sociaux peuvent faire ressortir le meilleur de l'humanité. Elle n'a pas réussi et au printemps, Frances Haugen a démissionné en menant dans ses cartons des montagnes de données transmises ensuite à la presse. Élevée dans l'Iowa par un père docteur et une mère devenue prêtre, elle vit désormais à Porto Rico, une île où personne ne l'a encore jamais reconnue. À San Francisco, elle n'échapperait sans doute pas à cette attention qu'elle préfère fuir. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Thomas Pesquet va-t-il finir par revenir sur Terre? On ne compte plus les reports du voyage retour de l'astronaute français, le dernier en date ce week-end. Finalement, et si la météo le permet, c'est ce soir à 20h qu'il quittera la Station Spatiale Internationale pour un amérissage au large de la Floride prévu très tôt demain matin.
Il est 7h40, en attendant son prochain roman, Michel Houellebecq lit des poèmes en boîte de nuit.
Oui, vous avez bien entendu, l'écrivain laisse planer le suspense sur le sujet de son nouveau livre, à paraître le 7 janvier. Mais pour patienter, ses lecteurs peuvent aller le voir cette semaine au Rex Club à Paris, boîte de nuit transformée pour l'occasion en théâtre. Houellebecq y déclame une trentaine de ses poèmes avec trois jeunes gens sur une musique spécialement composée par un artiste électro. Alors à quoi ressemble cet étonnant attelage? C'est le reportage d'Ilana Moriousef.
Ils sont quatre sur scène, une jeune femme, trois hommes, dont Michel Houellebecq, assis sur des chaises en plastique bleu comme dans une salle d'attente. Les mots évoquent la solitude, la difficulté de vivre.
Les humains, sous leur parapluie, cherchent une porte de sortie entre la panique et l'ennui. Mégot écrasé dans la boue. Existence à basse altitude.
C'était vraiment incroyable. Jusqu'à maintenant, j'y crois toujours pas. C'était vraiment parti d'un projet comme ça entre amis où on s'amusait à lire de la poésie. Et puis maintenant, on se retrouve sur scène avec Michel Houellebecq. Comme quoi, il faut rêver des fois.
Margot de Rochefort n'est pas comédienne. Elle s'est retrouvée dans l'aventure grâce à un ami, Victorien Bornéa, qui signe la mise en scène. Tout a commencé par un podcast. Il l'envoie à Michel Houellebecq via sa maison d'édition. Et de fil en aiguille, l'écrivain, qui avait abandonné la scène depuis 2014, décide de se produire à nouveau.
La route glissait dans l'aurore et les essuie-glaces vibraient. J'aurais aimé revoir ton corps avant de partir à jamais.
Pas d'interview à la sortie, en revanche, il les refuse toutes. Mais bien après la fin du spectacle, on l'aperçoit devant le Rex Club. Il signe des autographes pour une petite troupe d'admirateurs trentenaires.
Existence à basse altitude, c'est le nom de cette performance de Michel Houellebecq. Quatre représentations à Paris cette semaine.
Alexis Morel, merci. L'édito politique à suivre.